Et mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Mon nom est Olivier Beauchemin.
Et mon nom est Francis Juteau.
Et nous serons vos deux animateurs du podcast de Quiz Tonic. Hey, encore une fois, un honneur d'être avec toi, Francis.
Un immense honneur. À date, on a une belle réception du podcast.
Oui, vraiment. Et puis merci les gens qui commentent et compagnie. On leur a dit sans cesse, là, mais écrivez-nous si jamais vous avez des commentaires, des questions. On aime vraiment ça, entendre votre feedback finalement là, du podcast.
Oui, puis également, il n'y a pas grand monde qui dit le diplôme qu'ils ont eu. Peut-être que vous êtes gênés de l'écrire, mais on est toujours curieux de voir où est-ce que vous êtes rendu par rapport au niveau de difficulté qu'on a choisi.
Ben tu ris, mais moi au Pub Westerfield où j'anime le quiz en live, en présentiel, il y a deux personnes qui sont venues me voir en me disant « Hey, je t'ai battu à voyage, j'étais pas peu fier. » Fait que, tu vois, c'est ça, c'est quand même cool aussi, vous pouvez battre vos animateurs, là, tu sais.
Mais t'avais déjà dit, t'as pas assez voyagé, faut que tu voyages plus.
Pas un gros fan de voyage. Ben non, j'aime ça voyager. Mais c'est ça, effectivement, des fois, même si t'es fan d'une thématique, tu peux te planter dans certaines sections. Francis, on parle de sections, justement, les règlements pour le podcast comme tel. Pour ceux qui jouent pour la première fois, vous avez quatre différentes sections qui pastichent un peu le système d'éducation. Alors, on commence avec l'école primaire, secondaire, cégep et université. On réexpliquera les règlements précis ou les fonctionnalités précises pour chaque section. Mais grosso modo, il faut passer son primaire pour aller au secondaire, son secondaire pour aller au cégep et compagnie. Et vous l'aurez compris, le niveau de difficulté augmente avec le quiz, évidemment, jusqu'au doctorat à l'université.
Tout à fait. Puis les seuils de réussite vont varier pour chaque niveau. On va vous les réexpliquer en temps et lieu. Ouais. Vous allez découvrir ça si vous n'avez pas déjà tout découvert nos derniers podcasts.
Absolument. Et ben là, écoutez, on est à un podcast. On a déjà fait ça par le passé.
Oui.
Francis n'est pas au courant du podcast. Qu'est-ce que c'est la thématique?
Je ne sais rien.
Il pense que c'était l'environnement. C'est le wild guess que je t'avais demandé hors podcast. Alors, je suis prêt à te l'annoncer officiellement.
Vas-y.
Ceux qui ont cliqué sur le podcast le savent. Le quiz d'aujourd'hui sera sur les moyens de transport,
oui,
Francis.
On n'a jamais fait ça. Là.
On n'a jamais fait ça, moyens de transport. On a touché à l'automobile, je pense, dans des quiz en bar, là, c'est déjà arrivé. Mais moyens de transport en général, non. Alors, on se lance là-dedans.
Magnifique, ben oui,
T'aimes le voyage, donc je me dis que t'aimes les moyens de transport, Francis.
Oui, ben ça a tout le temps un charme. C'est sûr que je suis un grand fan de la conduite automobile à base. J'aime beaucoup ça, conduire, c'est un plaisir coupable.
Ouais.
Mais à chaque fois que j'ai la chance d'embarquer dans un nouveau moyen de transport, je saute dessus.
T'es un fan de pédalo, hein, on le sait. On va le découvrir ensemble dans le podcast.
Oui, tout à fait.
Alors, on se lance, Francis, mais juste avant, je te demanderais ta prédiction. Tu penses te rendre à quel niveau scolaire aujourd'hui?
Ah, ça, c'est très vague. Moyen de transport... Va-t-il y avoir un aspect mécanique avec lequel je suis moins familier? On va y aller conservateur. On va dire, pour la première fois, on va dire seulement le secondaire.
Secondaire, normalement. Alors, tu vises le secondaire.
Ouais.
On te souhaite bonne chance. On souhaite bonne chance aux gens qui jouent à la maison également. Et ce podcast moyen de transport commence dès maintenant avec l'école primaire. J'adore toujours ça comme à chaque fois. On se lance, Francis, en école primaire. Donc, première question relativement facile. On va toucher à plein de moyens de transport. Hein, et je commence avec cette question-là, donc de niveau maternel.
Attends, juste avant de dire, il va donc y avoir 7 questions
dans
la maternelle.
Oui, merci d'avoir précisé. 7 questions au total, maternelle jusqu'à 6e année. Et ton but pour le seuil de réussite, c'est 5 sur 7 pour réussir ton primaire. On commence ici avec des vrais ou faux de maternelle jusqu'en 3e année.
Parfait.
Alors, je commence avec un premier vrai ou faux. Durant une entrevue avec Larry King en 2005, lors de l'ouragan Katrina, Céline Dion avait lancé un cri du cœur en voyant autant de gens réfugiés dans leur maison, incapables de sortir à cause des inondations. Alors, vrai ou faux? Céline Dion aurait alors poussé la réplique suivante, devenue célèbre. « Take an helicopter! » Et c'est parti.
Me doutais que ça finirait pas comme je pensais que ça finirait.
Ah, tu penses-tu, hein?
Je pensais que c'était ça que c'était.
Exactement. Alors, il va soft quand même avec les moyens de transport. Le chrono est pratiquement terminé. Vrai ou faux?
C'est faux!
Félicitations, Francis, c'est
faux. Take a kayak.
Évidemment, on est en maternelle, hein, c'est quand même assez facile, mais ça nous permet de remontrer à quel point Céline Dion, c'est une figure pleine d'empathie, hein, qui, des fois, va lancer des répliques de ce genre, un petit peu sans bon sens, mais qui témoigne de sa volonté que les gens s'en sortent. C'est-tu beau?
Écoute, elle doit avoir plusieurs hélicoptères, elle aurait pu quand même en prêter une couple.
Ben, ça me s'arrête, t'es gentil. Allez, on se lance sur la question numéro 2, donc première année de l'école primaire. On est toujours en vrai ou faux? Je me lance. Francis, on a fait des road trips ensemble, hein? On en a parlé dans d'autres podcasts par le passé. Mais je sais pas si tu sais que, de mon côté, je suis un fan de canot camping. J'en ai fait beaucoup dans la vie à Gatineau. Alors, j'aime beaucoup le road trip. Mais j'aime le road trip de lac également. Vrai, effectivement. On va parler donc de canot aujourd'hui, hein? Donc, c'est un moyen de transport qui est beaucoup associé au loisir maintenant, comme je dis canot camping, mais qui était un moyen de transport utilisé par les Autochtones bien avant.
Oui.
Alors, ma question. C'est la personne qui est à l'avant du canot qui se charge de la direction de celui-ci. Vrai ou faux, encore une fois, je le répète, c'est la personne à l'avant du canot qui se charge de la direction du canot.
Intéressant. Donc, une question qui vient rejoindre un peu le sport aussi, d'une certaine façon.
Jusqu'à un certain sens, un peu.
L'exercice physique.
Oui.
Je vais dire, mon expérience de pêche est limitée, mais je vais dire que c'est vrai.
Ah. Oh là 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 là! Malheureusement, Francis, c'est à l'arrière que le canot donc, est dirigé. Quand tu penses à un moteur, d'ailleurs, justement, c'est souvent le moteur est à l'arrière. Donc, on fait diriger justement le moteur de cette manière-là. Malheureusement, le canot se dirige de l'arrière. Ceci dit, la personne à l'avant peut quand même faire certains coups pour essayer d'aider à la direction, mais c'est vraiment à l'arrière que ça se passe.
OK. Ma logique, c'était vraiment que la personne en arrière était la propulsion, puis la personne en avant, avec sa rame ou quelque chose, pouvait changer la trajectoire.
C'est exactement l'inverse, en fait.
Ah oui?
On a appris des choses. La propulsion, c'est à l'avant.
Parfait. C'est correct.
La première année est échouée. Mais c'est pas grave, on continue. Deuxième année. Alors... Le taxi, on change de moyen de transport, oui. A longtemps été le moyen de transport privilégié des gens qui sortent tard dans les bars ou qui arrivent de manière jet-set de l'aéroport. Ceci dit, l'arrivée de Uber a bouleversé un peu la situation dernièrement, causant une certaine crise du taxi qu'on vit depuis plusieurs années. Alors, vrai ou faux? En date d'aujourd'hui, le 28 mars 2024, ou 29 mars 2024, cela fait moins de 10 ans que Uber offre ses services au Québec. Donc, en date d'aujourd'hui, 29 mars 2024, cela fait moins de 10 ans que Uber offre ses services au Québec. Alors, si vous jouez évidemment dans un an, on parle de cette date-ci là, à l'instant.
Ah, intéressant, intéressant. En fait, si je ne me trompe pas, le projet pilote à Toronto a eu lieu au début des années 2010. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est vrai que c'est plus récent que 10 ans. Vrai.
Effectivement, Francis, c'est vrai, beau travail. Ça fait, en fait, tu vois, depuis le 29 octobre 2014 que c'est à Montréal et c'est arrivé en 2015 à la ville de Québec. Donc, c'est jusqu'à dans pas longtemps, ça va faire 10 ans pile poil. Félicitations, t'as eu ta bonne réponse à ce niveau-là. Toronto, tu l'as dit, c'est un petit peu avant, mais ça fait pas si longtemps qu'Uber est dans nos vies.
Non.
Même si c'est bien imprégné maintenant.
Ça a vraiment tout changé, honnêtement.
Là. Effectivement.
Okay. Uber Eats aussi, là, les skips, les applications de livraison, ça a tout changé.
Notre manière de consommer puis de se faire livrer, effectivement. Ouais. On se lance en question numéro 4, Francis. Dernière question, vrai ou faux, on est en troisième année. Alors voilà, je me lance. L'exploration spatiale, on parle de taxi, de canot, mais l'espace aussi existe. L'exploration spatiale s'est énormément accélérée depuis 50 ans, avec de nombreuses missions, autant de la NASA qu'à l'international. On a eu aussi droit à ce développement grâce à des avancées technologiques au niveau des navettes spatiales, des fusées, mais surtout des lanceurs. Ma question, vrai ou faux? Les lanceurs de fusées, ce qui fait la propulsion qui lance la fusée, sont réutilisables et portent d'ailleurs le nom des missions durant lesquelles ils ont été utilisés. Par exemple, Challenger, Columbia ou Discovery. Je le répète, les lanceurs sont réutilisables et portent le nom de la mission dans lesquelles, en général, ils sont utilisés.
Donc, dans cette logique-là, ils gardent leur nom même s'ils sont utilisés dans une autre mission par la suite?
C'est-à-dire que le lanceur comme tel est plus utilisé à la fin de la mission. Il porte ce nom-là.
OK. Mais il n'est pas réutilisé dans ce cas-là?
Il est réutilisé pendant la mission comme tel, mais à la fin de la mission comme tel, à la fin de tout Challenger, c'est un autre lanceur qui arrive.
OK. Ben écoute, j'ai aucune idée. Je vais dire vrai.
Ah... C'est malheureusement faux, Francis. Évidemment, un lanceur, c'est un drôle de moyen de transport quand même à aborder, mais le lanceur, malheureusement, n'est pas réutilisé en général. C'est là où il y a une forme de lenteur dans l'exploration spatiale. Tous les lanceurs sont toujours perdus, en grande majorité, sauf SpaceX qui a essayé dernièrement justement d'ajouter des lanceurs du nom, entre autres, de Falcon 9, qui, eux, commencent à être réutilisés, qui font en sorte qu'on peut les amerrir, les reprendre pour d'autres missions. Sinon, énormément polluant en général à cause de ça, d'ailleurs, l'exploration spatiale.
J'aurais pu y penser quand on pense à tous les débris qui sortent dans un lancement aussi. J'imagine qu'il n'y a rien de réutilisable dans tout ça.
Exact.
Mais
c'est
bon,
ça qui est fou.
La science et moi, parfois, ça fait quatre.
Ça fait quatre, j'adore ça, c'est très bon. Allez, on se lance à la question numéro 5, quatrième année. On est en choix de réponse, Francis. Donc, oui. On quitte le vrai ou faux. Peut-être que ça va nous aider quand même. Tu as deux erreurs à ton actif, ceci dit pour l'instant.
J'ai déjà plus le droit à l'erreur.
C'est pas facile, hein? Alors, quatrième année. On écoute bien. Donc, comment nomme-t-on le moyen de transport qui est une voiture légère à deux roues, à une ou deux places, et qui est tirée physiquement par une personne qui la tient? Donc, en A, le tuk-tuk, en B, le pousse-pousse, ou en C, le snoop-snoop?
Le snoop-snoop!
Alors, comment nomme-t-on le moyen de transport qui est une voiturette légère à deux roues? Et je le répète, qui est tirée physiquement là, par une personne qui va la tenir.
Oh mon Dieu. Le pire, c'est que t'as dit tuk-tuk, j'étais comme, ah, ça doit être ça. Là, t'as dit pouce-pouce, je fais fuck.
C'est quoi, hein, pouce-pouce
ah, tuk-tuk? Non! écoute, malheureusement, peut-être ça va se finir là, mais je vais dire que c'est le tuk-tuk.
Ah! Et là, là! Échoué son primaire, c'est quand
c'est
même pas
terminé.
Facile. Hein? C'est peut-être corsé un petit peu, ceci dit. Ça se peut.
Ah, mais c'est peut-être moi qui connais mal ça aussi.
Mais non, il n'y a pas de souci. Le tuk-tuk, le pouce-pouce, c'est quand même très semblable, ceci dit. Au Japon, ça a été très utilisé en général là, pour le transport des familles riches ou des geishas. À noter que le tuk-tuk, c'est un type de pouce-pouce, mais motorisé. Un
c'est
tuk-tuk,
ça.
C'est quand il y a un moteur à l'intérieur comme tel, alors que le pouce-pouce, ça. C'est vraiment tiré. Là. Et c'est normal, on dit pouce, hein, donc c'est vraiment l'idée justement de faire un effort physique.
Ça devrait être le tir-tir.
Le tir-tir, hein, ça aurait été mieux.
Tuk-tuk, mais c'est vrai peut-être que ça renvoie aussi à l'idée du moteur qui fait tuk-tuk-tuk-tuk-tuk.
Ah, peut-être c'est ça, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Ben écoute, on aura appris des choses
vous
ensemble.
Vous
j'adore ça. On se lance en cinquième année, Francis, quand même, tu vas continuer avec moi malgré
ben
tout.
Ben oui, je poursuis.
C'est pas facile le primaire des fois. Donc, cinquième année. La compagnie aérienne Air Canada est une des plus populaires et utilise principalement le modèle d'avion Boeing 737 MAX 8. Alors, il y a 40 modèles de ce type-là sur un total de 169 avions chez Air Canada. C'est vraiment le plus utilisé. C'est un avion avec le plus gros moteur qui est associé à des vols internationaux en général. Ma question, combien de passagers entrent dans un Boeing 737 MAX 8? A. 162 passagers. B. 407 passagers. Et c'est aucun, puisque Boeing a tendance à perdre ses portes d'avion dans les airs et par la même occasion, ses passagers.
OK, alors les deux chiffres, c'est quoi? 136?
C'est 162 et 407.
162 et 407. Boeing 737, c'est quand même une méchante bête, ça. 400, c'est immense. Je salue Julie Roberge, si elle écoute, qui adore les avions.
Ah, c'est vrai, ça.
Oui, va visiter
salue,
tous les aéroports et tous les musées. Je vais dire le B, 400. Aïe, aïe, aïe,
aïe, aïe, aïe, c'est pas facile, c'est pas facile. Et non, Francis, c'est 162 passagers. Okay. Si on divise là, relativement aussi en termes de rangée, on se rend compte que ça peut pas être jusqu'à 400. Et même, en général, à l'aéroport, 400 personnes dans une salle qui attendent pour rentrer, c'est quand même énorme, c'est quasiment une salle de spectacle.
Ouais,
donc,
j'avoue.
On aurait pu penser de cette manière-là. Ceci dit, peut-être qu'ils sont corsés, mes questions primaires.
Par honte, tu veux dire je, hein? J'aurais dû penser
j'explique
de cette
la
manière-là.
Parle. Mais peut-être qu'à la maison, c'est un peu corsé. Alors, ben désolé. Écoutez, après le primaire,
non,
vous avez
non.
toujours la possibilité d'aller au secondaire. Hein? On se rappelle ça.
Ça va, il faut que j'assume. Ma médiocrité.
Avant le podcast, Francis me disait « Hey, ça se peut qu'on se plante solide un moment donné. »
À un moment donné, ça va arriver. C'est le jour.
Des moyens de transport.
Mais on sait comment ça marche. Après ça, je peux réussir mon cégep
exact.
D'une façon étrange.
Effectivement, hein? Absolument. Ouais. Je me lance en sixième année. Encore une fois, question à choix de réponse. Le roman d'aventure « Le tour du monde en 80 jours » de Jules Verne, c'est un exemple important de fiction associée à l'univers des transports. Jules Verne était fasciné par le développement des moyens de transport à l'époque victorienne. C'est pour ça qu'il a fait cette œuvre-là, entre autres. Alors, je parle donc de moyens de transport, évidemment, dans le quiz, et l'œuvre aussi. Donc, de nombreux moyens de transport différents ont été abordés dans cette œuvre-là. Je te demande lequel des moyens de transport que je nomme n'est pas utilisé par Phileas Fogg et son ami Passepartout. Alors, en A, l'éléphant. En B, le traîneau à voile. Et en C, le cheval. Alors, trois différents moyens de transport. Lequel d'entre eux n'est pas utilisé dans l'œuvre de Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours?
Donc, l'éléphant, le traîneau à voile...
Et le cheval.
Et le cheval.
Pas facile, ma question primaire, ma section primaire. Hein?
Non, en fait, j'ai joué à un jeu Unlock il n'y a pas longtemps qui s'inspirait de ça. Dans mes souvenirs, l'éléphant est bel et bien présent. La montgolfière aussi, même si elle n'est pas nommée, malheureusement. Je vais dire, le cheval n'est pas emprunté.
Effectivement, le cheval n'est pas emprunté, voilà, noté dans l'œuvre. Ceci dit, erreur, Francis, la montgolfière aussi n'est pas utilisée
non,
dans le Tour du Monde en 80 jours. On a vraiment cette drôle d'association-là, pour aucune raison, de la montgolfière à cette œuvre-là. Ça a été dans son œuvre 5 semaines en ballon. Il a utilisé la montgolfière dans ce livre-là. Ceci dit, dans le Tour du Monde en 80 jours, jamais n'est mentionné l'idée de monter en montgolfière. Et c'est vraiment étrange parce que j'ai vraiment été recherché longtemps. S'il y a des gens qui l'ont lu récemment, vous me le direz si je me trompe, mais j'ai cherché partout. Et vraiment, ils en font pas mention dans les chapitres simplifiés
et
compagnie.
Mais j'ai l'impression, si je me trompe pas, il y a eu des versions, des covers de livres, des couvertures où c'était une montgolfière qui était dessus.
Qui était dessus.
À moins que ce soit pour celui en ballon, mais il me semble que ça a été utilisé dans des versions pour.
Peut-être. Mais écrivez-nous si vous le savez. Moi, je l'avais pas sous la main comme tel. Je voulais pas lire le livre juste pour cette question-là.
Non,
mais si vous le savez à la maison, on serait bien curieux. Hey, Francis! T'entends-tu les jeunes en ce moment qui crient la fin de l'école primaire?
Oh, il rit de moi.
Il rit avec toi, comme on dit.
Oh, oui.
On est maintenant rendu au secondaire, donc évidemment, tu peux poursuivre avec moi. Un total de 5 questions secondaires. Cette fois-ci, c'est des questions à réponse précise. Donc, on veut seulement une réponse simple et il faut réussir 3 sur 5, donc 60% pour pouvoir réussir au secondaire. Je vais te reprendre.
Bienvenue au secondaire.
La cloche retentit. Francis, on est rendu en question numéro 1. Secondaire 1. Alors, je me lance. Depuis le 31 juillet 2023, une première phase d'un nouveau réseau de transport collectif a vu le jour à Montréal, qui a fait beaucoup jaser, le REM. Hein? On en a parlé beaucoup. Pour l'instant, le REM relie le centre-ville de Montréal à Brossard, mais les travaux vont se poursuivre jusqu'en 2027. Ma question, quel est l'acronyme complet du mot REM?
Ah, OK. En tant que tel, je ne sais pas, mais on dirait que la logique s'impose par elle-même.
Ouais.
Donc, on salue, je t'aurais pu demander. Caroline Davernas fait
ah
sa
oui?
voix.
Ah
ça,
oui?
Ça, je sais.
Ah oui, ça, oui. C'est ça.
Qui est la fille de Michel Delaurier qui fait la voix du métro de Montréal.
Ce que j'aime, c'est que Francis est en train de tout shooter son information qu'il connaît pour être sûr, tu sais. De...
je sais des choses. Réseau Express Métropolitain.
Eh oui, félicitations, voilà. Francis. Bonne réponse. C'était pas de Montréal, on aurait pu croire quand même,
oui,
de l'extérieur de Montréal. Donc, Réseau Express Métropolitain. Il y a beaucoup de phases de projets qui s'en viennent, notamment relier l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau au centre-ville. On est une des rares villes qui n'a pas ça, un mode de fonctionnement efficace entre l'aéroport et notre centre-ville. Alors, ça va peut-être faire du bien pour ça. Ah,
ouais.
Félicitations, Francis.
C'est toujours étrange quand tu arrives ailleurs, puis mettons, l'aéroport, c'est, en tout cas, c'est hyper efficace pour se rendre au centre-ville. Ici, c'est quand même complexe.
Ouais, faut que tu prennes un taxi la majorité du temps, justement, ou un Uber. Hein, on
ouais,
sait maintenant
un
tu peux faire ça. Question numéro 2, secondaire 2, Francis. Encore une fois, question à réponse précise. Je me lance. Ce ne sont pas tous les moyens de transport qui peuvent circuler légalement au Québec. Quels moyens de transport sont désormais acceptés depuis le 20 juillet 2023? C'est un projet pilote de 3 ans et on parle ici évidemment des routes du Québec. C'est parti! Quels moyens de transport sont désormais acceptés depuis le 20 juillet 2023 pour un projet pilote de 3 ans? Il y a plusieurs réponses acceptables ici, mais j'en cherche évidemment seulement rien qu'une.
Très étrange.
Peut-être un petit indice pour t'aider.
Vas-y.
Il y a eu un projet pilote qui a permis à une certaine compagnie de présenter ce type de moyen de transport. Ça a été un échec quand même quand la compagnie faisait de la location de ce type de moyen de transport-là. Et maintenant, en tant qu'individu, on peut peut-être le prendre par nous-mêmes. Enfin, on peut définitivement pour 3 ans.
OK. Puis, donc, c'est pas nécessairement ces autoroutes, là. C'est pas légal sur
c'est
les
autoroutes.
C'est
certainement pas sur les autoroutes.
Ah, OK. Bon, c'est ça qui me mélangeait peut-être dans ce cas-là. Alors, ben, des trottinettes électriques.
Effectivement, trottinette électrique, gyro-roue électrique ou tout autre petit véhicule motorisé sans habitacle. Hein, donc, attention, pas d'habitacle ici, qui sont effectivement autorisés. Les trottinettistes, comme on les appelle, peuvent désormais donc avoir les croisés sur les routes de moins de 50 km à l'heure. Donc, quand une route de 50 km/h et moins, ils peuvent y aller. Mais eux autres doivent rester à une vitesse de 25 km/h.
Alors, take a trottinette!
Take a trottinette, tout le monde! Alors, félicitations à ceux qui aiment bien être sur nos routes avec des trottinettes électriques. La référence dont je te parlais, justement, c'est qu'à Montréal, il y a eu un projet pilote vraiment dégueulasse.
Ah oui, c'était affreux.
Je me souviens pas du nom de la compagnie, mais ça s'était pas bien passé avec les trottinettistes.
Ah, puis quand je suis allé à Paris, comme il y a 2 ans aussi, il y avait des trottinettes partout là, qui traînaient n'importe où. Là. C'est n'importe quoi.
C'est un projet pilote de 3 ans. On va voir si ça va faire des petits par la suite.
Peut-être s'il va y avoir trottinette Eats.
Peut-être bien, pourquoi pas. Allez, on se lance en question numéro 3, secondaire 3. La sécurité à vélo est très importante, Francis, hein? Notamment le port du casque est nécessaire. On doit s'assurer d'avoir bien ajusté la pression des pneus, la selle, d'avoir des réflecteurs. Parlant de réflecteurs, Francis...
parlant d'eux autres.
Parlant d'eux autres, ma question. Où sont posés les réflecteurs et de quelle couleur sont-ils sur un vélo? Alors ici, c'est une réponse quand même légèrement à développer. Je vais avoir besoin de me nommer les différentes places où il y a des réflecteurs tout d'abord. Puis, c'est quoi les couleurs pour ces différents endroits?
OK, parce qu'ils ont des couleurs différentes.
Il peut avoir des couleurs différentes.
OK.
Non, effectivement.
OK. Les réflecteurs, ben j'imagine que ce serait... OK, ouais. Du point de vue légal, en arrière, un, c'est sûr. Je te dirais les couleurs après, un en avant.
Ouais.
Puis, dans les roues.
Dans les roues, effectivement.
On va dire en arrière et en avant, rouge, et dans les roues, jaune-orange.
Ah. C'est difficile. Je sais pas si j'ai tendance à te le donner quand même, ceci étant dit. J'aurais peut-être pu demander une certaine plus grande précision. Alors, dans les roues, effectivement, de chaque côté, des roues, roues avant, roues arrière, on n'a pas le choix. C'est jaune ou blanc à l'avant et rouge ou blanc à l'arrière dans les roues comme tel. Et sinon, effectivement, sur les pédales aussi, c'est l'élément de réponse qui aurait fait, si tu avais nommé les pédales, je pense que je t'aurais donné le point à ce niveau-là. Ouais, ma question est un petit peu large peut-être pour secondaire. Alors, à la maison, si vous avez répondu pédales, notamment là-dedans, on va dire rouille à l'avant, à l'arrière, je suis prêt à éliminer le concept de couleur. Parce que... Hey, c'est compliqué la sécurité à vélo, puis moi personnellement, je porte même pas de casque, frère.
Ben voyons, là, franchement.
C'est une blague, Francis. Je ferai pas un éditorial ici, c'est pas le moment.
Ne meurs pas.
Question numéro 4, Francis, sur l'air 4. Quel moyen de transport bien connu utilise les concepts de poussée d'Archimède et l'utilisation de la chaleur pour se faire avancer? La poussée d'Archimède, c'est un concept scientifique, Francis. Oui. Peut-être que tu vas avoir de la misère.
J'en ai parlé au dernier, fait que je sais c'est quoi la poussée d'Archimède.
Ah oui, c'est vrai, tu connais ça, la poussée d'Archimède.
Oui, j'ai parlé que c'était, entre autres, lié à l'eau. Ouais. Mais là, tu me dis...
Pas nécessairement à l'eau.
Ouais, OK, c'est ça l'affaire, c'est ça que je me demandais. Parce que là, c'est quoi t'as dit, la poussée d'Archimède?
Et la chaleur.
Ben, on va être de retour avec la montgolfière.
Effectivement, la poussée d'Archimède, en fait, c'est justement une notion de gravité. Donc, quand tu as une certaine force de poussée qui est d'un bord par rapport à l'autre, l'air chaud versus l'air tiède, ça fait monter justement un objet. C'est les rapports de gravité qui sont là. Et donc, la chaleur est impliquée également dans le processus. Bravo, Francis.
Merci.
Ça se passe bien en science quand même, finalement.
Oui, la science, c'est là. Mais ça m'a fait penser à cause de l'eau, j'ai passé au sous-marin d'entrée de jeu. Mais là, je me suis dit, la température, je pense pas que ça a un lien avec le déplacement du solaire.
Quoique la poussée d'Archimède peut effectivement être en lien avec ça.
Ouais.
Je comprends. On se lance à question 5. Tu vas la jouer quand même, mais je pense que tu as passé ton secondaire, Francis.
C'est fait.
Félicitations.
C'est de la misère avec les choix de réponse puis les vrais ou faux.
C'est des fois, c'est plus tough, effectivement. Ouais. Donc, question 5, dernière de ce bloc de secondaire. Si on s'intéresse un peu à la monnaie canadienne, Francis, ou qu'on accumule notre petit change, on aura remarqué que la pièce de 10 cents présente un bateau. Hein? C'est une goélette, donc ce bateau-là, qui a été très importante dans les années 30-50. Et ma question toute simple, quel est son nom?
Alors, je vais remercier les quiz pour ça.
Ah, toi, tu connais ça d'un coup, là.
Ouais, je pense que je l'ai.
C'était ma corsée du secondaire, quoique ma question sur les couleurs de réflecteur était peut-être corsée aussi, on va dire. Celle-là, c'est ma plus tough, selon moi, mais si tu l'as, félicitations.
Ah non, mais un peu difficile, mais je pense qu'il y avait du monde qui le connaît aussi. Je sais pas si c'est écrit dessus, ça me
m'étonnerait. Pas sur la pièce, je ne pense
non,
pas.
Non, je pense que c'est le Blue Nose.
Effectivement, c'est le Blue Nose. Son nom provient du surnom qu'on donne aux néo-écossais ou qu'on donnait aux néo-écossais peut-être dans le temps. À la base, c'était une goélette de pêche, mais qui a été comme recrutée pour une course entre les pêcheurs des provinces maritimes et des États de la Nouvelle-Angleterre. Elle a gagné durant 17 années consécutives et est comme devenue un symbole de fierté pour la Nouvelle-Écosse et donc restée dans les annales, le Blue Nose. Francis? Entends-tu les applaudissements des gens qui disent félicitations, t'as passé ton secondaire?
C'est les gens qui disent bravo, tu sais jouer à des quiz et reconnaître le Blue Nose, mais tu ne fais pas assez de canot pour savoir s'il faut être en avant ou en arrière.
Francis, on va aller faire du canot camping ensemble.
On y va.
Moi, t'apprendre ça.
Peut-être.
Donc, on est rendu effectivement à la troisième section, mon cher Francis, et qui dit canot camping dit.
C'est ça qui se passe dans le canot camping?
Peut-être. Canot camping dit évidemment le cégep.
Évidemment.
Allez, au cégep, on a un total de 3 questions. Francis, c'est particulier, le cégep, on va avoir des orientations de questions. Donc, chaque question de cette section-là va être un peu, si on veut, enseignée par un professeur différent ou à la manière d'une matière différente. Donc, les moyens de transport, mais à une certaine sauce différente.
Parfait.
Alors, on se lance. Et pour cette section cégep, on a besoin de 2 bonnes réponses sur 3 pour pouvoir passer à la prochaine section.
J'ai hâte de goûter à tes sauces.
Parfait, on se lance. Qui dit cégep, dit justement une période assez importante pour les jeunes. J'y étais avec une matière qui n'est pas tant une matière scolaire, le test de conduite de l'assurance automobile du Québec.
Parfait,
parce que
ben oui.
Qui dit moyen de transport, on a besoin de savoir conduire, Francis.
C'est magnifique.
Alors, j'ai été sur le site de la SAAQ pour justement checker c'est quoi les questions qu'ils posent en préparatif d'examen. Et j'en ai ciblé 3. Donc, pour ce bloc-ci, là, cette question-ci du test de conduite de l'assurance automobile, tu vas avoir besoin de 2 bonnes réponses sur 3 aussi pour réussir cette matière-là.
Okay.
Alors, je commence avec la question A. On va y aller quand même assez rapidement vu que c'est en 3 questions. Alors, en A, il est interdit d'effectuer un dépassement en empruntant la voie réservée à la circulation en sens inverse. Donc, il est interdit d'effectuer un dépassement en empruntant la voie réservée à la circulation en sens inverse. Ah, excuse-moi, il y avait des trois choix de réponse.
OK.
Oui, hey, c'était pas clair.
Oui, c'était comme vrai ou faux.
Oui, parce que c'est vrai ou faux. Hein. Ouais. Alors, en 1, en longeant une piste cyclable. 2, dans une zone de 30 km/h. Ou 3, à l'approche et au sommet d'une côte. Alors, je le répète au complet pour que ça soit plus clair. Désolé pour le faux départ. Alors, il est interdit d'effectuer un dépassement en empruntant la voie réservée à la circulation en sens inverse. 1, en longeant une piste cyclable. Ou dans une zone de 30 km/h. Ou à l'approche et au sommet d'une côte.
Je veux dire à l'approche et au sommet d'une côte.
Bonne réponse, effectivement. Alors, en longeant une piste cyclable, ça se peut. Dans une zone de 30 km/h aussi, ça se peut. Mais à l'approche d'une côte, on ne voit pas nécessairement très bien. Le dépassement n'est pas permis dans ce contexte-là.
C'est dangereux.
On peut se fier aux lignes, Francis, aussi, pour si on veut, si on veut savoir si on peut dépasser.
À la base, c'est le plus parlant.
Le plus parlant, effectivement. Je me lance à la deuxième question, toujours en test de conduite de l'Assurance automobile du Québec. Vous circulez dans une zone scolaire. La limite maximale de vitesse permise est 1. Toujours de 50 km/h. 2. Toujours de 30 km/h ou 3, 50 km/h, sauf si une limite moindre est indiquée. Alors, je le répète encore une fois, vous circulez dans une zone scolaire. La limite maximale de vitesse automatiquement est 1, 50 km/h, 2, 30 km/h ou 3, 50 km/h, sauf si une limite moindre est indiquée. C'est chiant. Moi, je t'annonce, Français, j'ai coulé mon premier examen théorique de la SAQ.
Moi aussi, je l'avais coulé.
Des fois, c'est des questions pièges, là. C'est pas facile.
Ah non. Puis même ça, selon moi, c'est entre B et C. Mais je veux dire B.
Alors, malheureusement, c'est toujours 50 km/h, sauf si une limite moindre est indiquée.
Okay.
C'est 50 km/h, une zone scolaire, normalement.
Moi, je dis. Roulez à 30, prenez pas de chance.
Ben, c'est bon, Francis. Avec un casque en auto aussi.
Oui,
on évoque la dernière question du test de conduite. Alors, dans quelle situation la ligne double peut-elle être franchie pour un dépassement? 1. Lorsqu'un véhicule d'urgence est derrière nous. 2. Pour dépasser un véhicule routier muni d'un panneau avertisseur de circulation lente. Ou 3. La ligne double ne peut jamais être franchie. Encore une fois, je répète la question. Question C. Dans quelle situation la ligne double peut-elle être franchie pour un dépassement? 1. Lorsqu'un véhicule d'urgence est derrière nous. 2. Pour dépasser un véhicule routier muni d'un panneau avertisseur de circulation lente, comme un tracteur par exemple. Ouais. Et en 3, la ligne double ne peut jamais être franchie.
Ça, c'est drôle. Le C arrive puis il est comme, finalement, la question, oublie le principe de base de ta question, exact. Réfléchis autrement. Oh, on va dire le B pour dépasser un tracteur.
Effectivement, Francis, on peut dépasser une ligne double pour un tracteur. Mais c'est vraiment le genre de pomme dans lequel moi, je tombais à mon examen théorique. Alors, honnêtement, je comprends à la maison si vous avez coulé votre test théorique encore aujourd'hui.
Mais là, je suis content de m'avoir repris là, par rapport à mon propre examen à la SAQ. J'ai effacé des traumatismes et je salue ma blonde qui est en train de les passer en ce moment. Donc, j'ai pu réétudier avec elle.
Ah oui,
ça m'a permis
de passer,
peut-être.
Alors, t'as un premier point, Francis, pour le test de conduite. On passe en question numéro 2 du cégep et on passe à une nouvelle matière, l'histoire.
OK.
Alors, j'ai voulu parler du métro de Montréal, mais on a beaucoup de gens à l'extérieur de Montréal qui écoutent le podcast, partout au Québec. Mais je trouvais ça quand même important de parler du métro comme système de transport en commun. Par contre, pour en parler comme du monde, je me suis dit que l'histoire était parfaite. Je vais te demander d'identifier des stations de métro de Montréal en fonction de la description de la personne qui porte son nom.
Hein,
ce sont des descriptions historiques.
J'aime bien.
Encore une fois, même principe. Tu vas avoir un total de 4 différentes descriptions. On a besoin d'en avoir 3 sur 4 pour avoir le point en histoire.
Parfait.
Alors, je me lance. Je vais te nommer les 4, puis ensuite, je vais te donner un petit temps de réflexion, puis on passera à travers encore. En A, 7e premier ministre du Canada, de 1896 à 1911, c'est aussi le premier Canadien français à accéder à ce poste.
Deux petites secondes, je t'interromps.
Ouais.
Est-ce que le nom des stations, puisque des fois, il porte vraiment le nom lié à cette personnalité-là, ou il partage juste le même nom de famille?
C'est-à-dire que des fois, ça va être juste le nom de famille ou des fois le nom complet. Mais dans ce cas-ci, je cherche le nom de la station.
Mais la station n'est pas nécessairement nommée en l'honneur de cette personne-là particulièrement.
Oui, absolument.
Ah oui, elle est nommée?
Le nom de la station de métro, c'est cette personne-là.
Ah, OK, parfait.
Alors, je vais le répéter. Donc, 7e premier ministre du Canada, c'est aussi le premier Canadien français à accéder à ce poste. En B, premier intendant de la Nouvelle-France qui avait pour mandat de développer les colonies de 1665 à 1672. En C, un prêtre catholique, professeur, historien et écrivain québécois, il est à l'origine de l'expression « maître chez nous » et est considéré comme un précurseur de la Révolution tranquille. Et en D, Explorateur et commerçant de fourrures français en Nouvelle-France, il participe à la fondation de la Compagnie de la baie du Tusson en 1670. Alors ici, pour juste peut-être clarifier, Francis, tu m'avais posé la question. Ouais. C'est toujours le nom de famille qu'on cherche oui. de ces personnages-là. Et c'est le nom de famille qui est aussi le nom de la station de métro à Montréal.
OK, parfait.
Alors, ça va clarifier oui. un petit peu.
Alors, j'adore ça. C'est une bonne idée de question aussi. Peut-être que je vais avoir les quatre. Peut-être.
On va voir. C'est pas si facile. On commence en A. Donc, 7e premier ministre du Canada, premier Canadien français à accéder à ce poste. Qui est-il?
Est-ce que ce serait Laurier?
C'est Laurier, effectivement, Wilfrid Laurier.
Mais tu vois, je me demandais la question, parce que dans mes souvenirs, Laurier n'était pas nommé en l'honneur de Wilfrid Laurier, mais en l'honneur d'un propriétaire du terrain qui s'appelait Laurier.
Eh hey, bien, écoute, peut-être que c'est le cas. J'avoue que j'ai pas validé dans ma tête. Okay. C'était tellement clair que c'était ça.
Okay, okay.
Si c'est le cas, honnêtement, le prochain podcast, je vais faire à mon honorable.
Ah, c'est curieux. Voilà.
Bon, on salue Laurier quand même.
Oui, oui, on le salue.
En B, premier intendant de la Nouvelle-France qui avait pour mandat de développer les colonies de 1665 à 1672.
C'est ça aussi, ça, c'était le propriétaire du terrain aussi, M. Talon, de son
oui.
prénom Jean. C'est lui qui possédait le marché.
C'est Jean Le Talon, ouais, effectivement. Oui, effectivement. En C, prêtre catholique, professeur, historien et écrivain québécois, il est à l'origine de l'expression « maître chez nous », précurseur de la Révolution tranquille.
On salue mon propre cégep, Lionel Groulx.
C'est Lionel Groulx, effectivement. Et finalement, en D, explorateur et commerçant de fourrures français en Nouvelle-France, il va participer à la fondation de la Compagnie de la baie du Tusson en 1670.
Loin, loin sur la ligne verte, est-ce Radisson?
C'est Radisson, Francis. Ouais, hey, un 4 sur 4, c'est très bon, félicitations.
Connais mon histoire.
Tu connais ton histoire, effectivement. Alors, bravo à la maison, je le répète, 3 sur 4 pour pouvoir passer, avoir le point de cette section histoire. Et on termine notre cégep avec une dernière matière, Francis. On procède encore de la même manière. Ce sera la section anglais. Hein? Je l'ai fait le podcast dernier que j'ai monté. On reste en anglais parce que j'aime bien la matière de l'anglais. Et tu vas me voir venir. Traduisez en français les différents termes anglais associés à l'univers de l'automobile et des moteurs. Alors, on va y aller avec des bonnes vieilles expressions de mécanicien en anglais. Je veux savoir quel est le terme français pour le définir. Encore une fois, 3 différentes questions. On a besoin de 2 sur 3 pour pouvoir gagner son anglais.
Parfait.
T'es vrai?
Écoute, je suis allé hier dans une shop.
Ah ouais,
garage.
Hein?
J'ai baigné là-dedans hier, je suis prêt.
Je te souhaite bonne chance. On commence avec la question A. Qu'est-ce qu'un caliper?
Ah, mon salaud.
1. Une courroie d'entraînement ou de distribution, ou un timing belt. En 2. Okay. Un étrier de frein. 3. Un roulement de roue, aussi appelé bearing.
OK.
Je vais commencer avec tout le temps la question par question. Alors, un caliper. Courroie d'entraînement ou de distribution, un étrier de frein ou un roulement de roue?
Tu penses-tu que ça aurait été aussi drôle s'il avait dit « Tu garantis ça, un étrier de frein? »
C'est un étrier de frein. Félicitations, Francis!
Merci, Oli.
Tu garantis ce galopeur? C'est effectivement un classique de François Pérus. Donc, comme je l'ai dit, courroie d'entraînement distribution, c'est plutôt la timing belt. Et le roulement de roue, c'est les bearings, donc, qui est associé ouais. à ça, principalement dans le terme anglais.
Puis les galopeurs, on peut laisser ça dans le cours.
On peut laisser ça dans le cours, les galopeurs. Ouais. Question B. On poursuit avec le prochain terme. Un rim. Est-ce une jupe latérale, un piston ou une jante de la roue? C'est chien comme question. Okay. Un rim. Est-ce une jupe latérale, un piston ou une jante de la roue?
Aïe, 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 aïe. OK, alors...
C'est quasiment autant mécanique qu'anglais, mon
affaire. C'est pas le REM, R-E-M?
Le REM, effectivement, ouais. Oui.
Alors, je vais dire le C.
C'est la jante de la roue, effectivement. On utilisait aussi le terme MAG avant, qui vient de Magnesium Rims. Alors, MAG pour Magazine Rims. La jupe latérale, c'est plutôt le side skirt et le piston, c'est le piston.
Ah,
pas pire. Question C, tu l'as passé, on va quand même y aller avec la dernière sous-question. Un muffler, est-ce que c'est un silencieux, un amortisseur ou un enjoliveur?
OK.
Un muffler, est-ce que c'est un silencieux, un amortisseur ou un enjoliveur?
Celle-là, elle me semble plus facile, tellement que j'ai peur que ce soit un piège. Mais bon, je vais pas tomber dans mes propres...
Ah ouais, 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 effectivement.
Alors,
c'est classique de quiz.
Ce sera un silencieux.
C'est un silencieux. Tu connais très bien ton anglais et ta mécanique, Francis.
Oui, quand même, ça a bien été.
Un amortisseur, c'est des chocs plutôt. Et un enjoliveur, c'est le hubcap qu'on dirait en anglais. Alors, on salue les mécaniciens qui jouent avec nous. Et Francis, je t'annonce que... Eh bien, t'as passé ton cégep. T'as réussi ton
incroyable.
Cégep.
Secondaire et cégep, c'est réussi.
Après un primaire échoué. Oui, qu'est-ce que tu veux, on
oui,
arrive,
oui ça arrive.
C'est normal. Dernière section, Francis. On est à l'université. C'est la section la plus costaude. Ça commence à être un petit peu plus haut en niveau. Et il y a 3 différentes parties, c'est-à-dire le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat. Baccalauréat, pour les gens qui jouent avec nous pour la première fois, il faut avoir un 3 sur 3 pour réussir cette section-là. Et les 2 premières questions Les réponses qu'on trouve à ces questions-là sont des indices pour la troisième. Alors, vous comprendrez en jouant si c'est votre première fois, mais donc, à force de répondre aux questions, la troisième question, vous avez déjà deux indices en banque pour mieux comprendre. T'es prêt, Francis?
Je suis prêt.
T'es prêt. Première année du baccalauréat, ma question est... Quand on achète une automobile, on souhaite toujours une bonne fiabilité, une bonne performance. Certaines voitures sont devenues des stéréotypes de contre-performance, comme la Lada, dont on parle souvent, et d'autres, au contraire, sont des gages de sécurité.
Souvent. Tu parles souvent de la Lada?
Souvent de la Lada. Je parle toujours de la Lada, Francis. Ma question, quel pays possède une excellente réputation en termes de constructeur automobile depuis près de deux siècles, que ce soit en raison de nombreux ingénieurs vers 1870 qui ont contribué, entre autres, au moteur à combustion ou à créer un moteur à explosion, ou d'une marque de commerce basée sur le luxe et la performance. Donc, on parle d'un pays en tant que tel qui s'est fait une marque de commerce associée à la fiabilité et la performance. Quel est ce pays?
OK. Mais il y a quand même beaucoup de pays qui, la deuxième partie, qui fonctionne dans la luxure, la performance.
Oui, effectivement.
C'est plus ton premier, dans le fond, ceux qui ont bâti les moteurs à compulsion.
Non, mais il y a énormément de gens qui ont travaillé sur ces modèles-là également. On va dire peut-être celui qui a créé un moteur atmosphérique, par exemple, ou qui a amené énormément de modifications sur le moteur à combustion.
OK.
Ouais, j'aurais une réponse en tête comme telle. Puis je pense qu'il y a quand même un pays qui se distingue là, en termes de luxe et de performance aussi.
OK, mais c'est pas particulièrement ma force, je vais dire l'Allemagne.
L'Allemagne, effectivement. On a des grands ingénieurs français, notamment, qui ont travaillé sur les moteurs aussi. La France peut avoir une certaine qualité de performance et de luxe, mais pas autant que l'Allemagne, qui est vraiment cette réputation-là comme telle à l'international.
OK. J'hésitais avec l'Italie aussi, qui a quand même beaucoup de modèles de luxe.
Oui, c'est vrai, effectivement, avec certains modèles même de course sportive comme tel. Mais en tout cas, si mes recherches ont été bien faites et bonnes, c'est beaucoup plus les Allemands et les Français qui ont travaillé sur les moteurs à l'époque aussi. Parfait. Alors voilà, félicitations à ceux qui ont eu. La bonne réponse était Allemagne. On pense à Nicolas Otto, entre autres, pour le moteur atmosphérique. Carl Benz également, qui a travaillé beaucoup sur le moteur à combustion. Question numéro 2, deuxième année du baccalauréat. Donc, on se souvient qu'on a quand même Allemagne en tête, mais c'est pour la question 3.
Oui.
Question 2. Francis, à force de faire des recherches pour mon quiz, j'ai découvert des tas de moyens de transport différents. Hein? J'espère que toi aussi, tu connais suffisamment des moyens de transport différents.
J'espère.
Qu'est-ce qui relie ces différents moyens de transport? Hydravion. Gyrodyne, triplan et paramoteur. Tu l'aimes-tu, ma question?
Hydravion, je pense que c'est le seul
Hydravion,
que je connais.
Hydravion, gyrodyne, triplan et paramoteur.
Gyrodyne, triplan. Alors, il va falloir que je me concentre sur l'hydravion. Alors, ce sont tous des moyens de transport qui vont sur l'eau.
Malheureusement, c'est une question un peu difficile. Hein? Tu l'as ou tu l'as pas souvent pour ce type-là. Alors non, c'est tout des transports aériens. L'hydravion est un peu une pogne à ce niveau-là. Donc évidemment, l'hydravion, c'est un avion qui a la capacité, tu l'as dit, d'amerrir. Ouais. Le gyrodyne, c'est à la fois un rotor comme un hélicoptère et un moteur comme un avion. Alors on a les deux.
Oui, okay.
Il y a certains, on le voit des fois dans des films aussi, c'est utilisé beaucoup par l'armée. Un triplan, c'est trois ailes les unes au-dessus des autres.
Okay.
Et un paramoteur, c'est comme un genre de parasailing, mais avec un moteur comme tel. Un peu un genre de parachute slash deltaplane, mais motorisé.
Peut-être que les racines para auraient pu m'aider aussi, ou même gyro pour la rotation, comme des pales d'un hélicoptère.
Oui, tu aurais peut-être pu aller vers ça. Mais donc, malheureusement, c'est échoué pour ça.
Oui.
C'est pas grave, on continue quand même. Tu as Allemagne et transport aérien qui sont en ce moment tes deux indices.
J'ai déjà une idée. Où est-ce que tu
T'as
vas?
Déjà une idée de où est-ce que je peux aller. On va voir, peut-être que c'est trop facile, là, peut-être. Alors, question numéro 3. Quel type de moyen de transport est associé à un incident le 6 mai 1937 à Lakehurst, dans le New Jersey, qui fera 35 morts et qui va avoir été rapporté massivement par de nombreuses compagnies d'actualité cinématographique?
Oui.
C'est-tu là que tu t'en allais?
Je savais que c'était là.
Ah oui, OK.
Je pensais même que tu allais demander, en fait, le nom. Donc,
j'ai été
le nom propre.
Ah, tu pourrais me le nommer tout de suite si tu le savais.
Mais ça, c'est plus... je vais massacrer la prononciation. Là.
Écoute, ça sera un point boni. Peut-être que je vais te faire passer à la maîtrise.
Alors, c'est un Zeppelin et c'est le Hindenburg.
Effectivement, beau travail, Francis. Ouais. Très, très bon. C'est un dirigeable transatlantique, donc un Zeppelin. Donc, un vol, pour ton information, un vol Allemagne-Brésil durait environ 5 jours de suite.
Okay.
C'est quand même très long, alors la distance était grande. C'était l'Allemagne nazie qui faisait la promotion de ce type de véhicule-là. Et jamais ils ont voulu un peu concéder qu'il y avait des problèmes. Pendant un an, donc, le Hindenburg a été en fonction, a fait plusieurs voyages, 330 000 kilomètres. Mais c'était tout le temps un petit peu sketchy. Le monde des dirigeables, et quand il y a eu un incendie à la poupe, il s'est écrasé en 34 secondes. Donc l'idée de faire un vol transatlantique était peut-être un petit peu plus dangereuse rendu là, je te dirais.
Oui, il y a des images après ça de ça, quand même une catastrophe importante.
Là, exactement. Ouais. J'ai essayé de faire un lien avec le rock'n'roll pour Led Zeppelin.
C'est ça.
J'ai vraiment eu de la misère à trouver la question. J'ai failli y aller avec le rock, mais en même temps Pierre, je me disais, non, ça c'est trop poussé.
Non, je comprends.
Félicitations quand même, Francis, avec Hindenburg, je te fais quand même passer en maîtrise. Beau travail!
Merci mon cher.
On se lance en maîtrise, c'est l'avant-dernière question du quiz, question numéro 4, et c'est tout le temps une question un petit peu plus longue, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'éléments de réponse à trouver, beaucoup d'éléments de questions à trouver, beaucoup d'éléments de réponse. Donc, je me lance, j'ai tenté de réduire, Francis, dans le quiz, tu l'auras remarqué, le plus possible l'automobile pour pas trop en parler.
Okay.
Tu sais, je trouvais ça important quand même d'aller à plein d'endroits. Ceci dit, ça reste quand même le moyen de transport le plus connu, je pense, de la part des gens.
Le plus commun, ouais.
Alors, maîtrise et doctorat vont se concentrer davantage sur celui-là.
Parfait.
Voilà. Alors, je vais te donner des modèles d'automobiles.
Oui.
Et je veux que tu me dises le constructeur automobile qui est associé.
OK. Hein?
On va avoir un total de 9 différents choix. Et je veux savoir le constructeur associé aux différents modèles. Parce que je suis généreux, je vais te donner 3 modèles dans la liste.
OK.
Fait que t'as quand même 3 modèles pour essayer de penser à quel est le constructeur qui est associé à ça.
Parfait.
Puis à la fin, évidemment, on a besoin de 7 bonnes réponses sur 9. Alors,
parfait.
Pour réussir.
Je suis pas nécessairement fort là-dedans, mais j'aime la poésie des noms qui est choisie parfois dans le monde automobile comme ça. Donc, intéressant.
Tu vas voir, ça va être très poétique. Je me lance.
Balzac, Baudelaire.
Oui, c'est ça.
Ford Balzac.
La fameuse Ferrari Balzac. Je te lance donc tous les différents choix, puis on y va peut-être après ça par la suite, on les répète, puis tu vas pour les réponses. Qu'est-ce que tu en dis?
C'est parfait. Je veux juste te dire, quand je suis allé à Shop Mécanique là, hier, c'était sur la rue Balzac et ça m'a vraiment fait éclater de rire.
Ah oui, c'est vrai. Peut-être que la Ferrari Balzac existe.
Peut-être.
Hein? On verra bien.
On y va.
Je me lance alors en A, Tercel Camry Yaris. En B, PT Cruiser Grand Caravane 300. En C, Mustang F-150 Modèle T. En D, Roadster Modèle S Cybertruck. En E, Sentra Pathfinder Micra. En F, DB5, 177, Valkyrie. En G, Civic Accord CRV. En H, Corvette Silverado Malibu. Et en I, Impreza Outback et Forester. Je laisse un petit peu de temps pour tout le monde. C'était énormément d'informations. Peut-être qu'il y a certains noms qui vont résonner dans vos têtes. Et de la manière dont on va procéder, Francis, je vais te renommer les listes. Puis tu auras un petit moment de réflexion encore une fois. Tu me donnes la réponse. Je le répète, on a besoin de 7 bonnes réponses sur 9 pour pouvoir passer au doctorat.
OK, ça va être serré.
Ça va être serré. On se lance. Alors, premier, je vais même laisser un petit chrono pour que tu aies le temps de penser. En A, Tercel.
Oh non, laisse pas de chrono pour chacun.
Ouais, ça va être plus long.
Non, non, non.
Donc, Tercel, Camry, Yaris. C'est parti.
En fait, moi, je te dirais, ça, c'est clair pour moi. Ma famille, c'est Toyota.
Effectivement, donc Toyota Camry, Toyota Yaris, assez classique comme modèle. Donc, un premier point.
Oui.
On se lance maintenant. PT Cruiser, Grande Caravane et 300.
C'est Dodge.
C'est vrai que Dodge est quand même associé en général à ce constructeur-là, mais c'était Chrysler.
Chrysler.
Hein? PT Cruiser de Chrysler, la Grande Caravane de Chrysler et 300. Chrysler 300 qu'on cherchait. Alors, première mauvaise réponse ici.
Oui.
En C, Mustang F-150. Et modèle T.
Ford.
Effectivement, c'est Ford. En D, Roadster, modèle S et Cybertruck.
Tesla.
Hey, Tesla, effectivement, la Roadster, c'est celle qui a été autour de la planète. Hein? On a vu la Roadster rouge, là, de Tesla, c'était ce qui a été lancé par SpaceX. On est présentement 3 à 1. Alors, Francis, ça se passe quand même plutôt bien.
Ouais, ça pourrait se corser.
Ça pourrait se corser. On se lance. Sentra, Pathfinder, Micra.
Nissan.
Effectivement, c'est Nissan 4 à 1. DB5, 177 et Valkyrie.
Ça, là. Opel.
En ce moment, on est à deux mauvaises réponses, alors tu n'as plus vraiment de chance pour te reprendre. La DB5, c'est donc la Aston Martin de James Bond.
Ah, hein? Okay,
Aston oui. Martin, donc compagnie plutôt corsée, ceci dit, oui. à nommer. Bravo à ceux qui l'auront trouvé. On poursuit. Civic, Accord et CRV.
Honda.
C'est Honda, effectivement. Avant-dernière liste. Francis, ça se peut encore, ça se peut.
Ça m'étonnerait.
Corvette, Silverado et Malibu.
Chevrolet?
C'est Chevrolet, ouh, effectivement.
Ça,
ouais.
J'étais pas sûr.
Pas facile, effectivement. Et il t'en reste juste une, alors la pression est à son comble. On nomme donc cette liste-là une dernière fois. Impreza, Outback et Forester.
Subaru?
Et c'est Subaru!
Oh, yeah!
Francis, bravo, 7 sur 9. Ouh, sur la fesse, c'était pas évident. T'es un fan d'automobile, ça s'est quand même ressenti.
Juste des noms et des traductions des pièces. C'est tout ce qui m'intéresse. Et les conduits.
Et un peu de poussée d'Archimède par la bande.
Oui. Tout ça.
Donc, on est rendu au doctorat. Félicitations.
Merci.
La maîtrise, c'est quand même rare qu'on la réussisse aussi. Là. Donc, bravo à la maison si vous avez réussi.
Tout passé sauf le primaire.
Effectivement. Tout sauf le primaire. C'est quand même le fun. C'est vrai que les vrais ou faux, les choix de réponse, c'est corsé.
Ah, ouais, non,
c'est
fois,
corsé
ouais.
Des fois. Alors, doctorat, c'est la dernière question du podcast. C'est toujours une question qui est un petit peu plus à développement. Donc, à la maison, si vous pensez avoir eu ces éléments de réponse-là en général, ben, vous donnez le point, évidemment. Vous avez réussi tout le parcours universitaire. Je vais vous expliquer un petit peu les critères de réussite par la suite. Francis, toi, tu vas me balbutier une réponse
oui.
À ton meilleur hein, pour cette question-là à développement, je le répète.
Je vais te l'expliquer en détail. Je connais déjà la réponse, mais vas-y, pose la question.
Parfait, juste pour le fun, au moins, pour se mettre en contexte. Alors, la mise en contexte du doctorat. Quand on parle de moyens de transport, on n'a pas le choix de nos jours de parler d'empreinte écologique. On se questionne sur la bonne manière de se mouvoir comme citoyen, citoyenne, en étant responsable. Ça nous amène donc à parler évidemment ici de la voiture électrique. Hein, je voulais terminer sur une note d'empreinte écologique.
Positive.
On va quand même revenir en arrière, ceci dit. Francis, savais-tu que le premier modèle de voiture électrique date de 1881? Hein? Donc vraiment, vraiment, il y a longtemps. Ça a d'ailleurs été longtemps le type de voiture priorisé aux voitures à combustion. Hein? Donc c'était vraiment le modèle que les gens choisissaient, la voiture électrique. Alors ma question, pourquoi la voiture à essence a-t-elle supplanté la voiture électrique au début des années 1900? Et j'ai besoin de deux éléments de réponse. Alors un, une invention technologique à nommer. Et deux, un constructeur automobile à nommer. Donc, faut que tu brodes autour de ces deux éléments-là pour pouvoir me répondre à la question, je le répète, pourquoi la voiture à essence a-t-elle supplanté la voiture électrique au début des années 1900? Je te laisse un petit peu de réflexion. Et la même chose à la maison, pensez-y. C'est évidemment pas juste le nom d'une invention puis le nom d'un constructeur que je veux que tu m'expliques un peu, mais c'est les deux thèmes larges que j'ai besoin que tu développes aujourd'hui au doctorat.
OK, parfait. Mais je sais pas la réponse en tant que telle, j'ai hâte de l'entendre. Par contre, tu sais, il y a eu beaucoup de documentaires, c'est des trucs, je pense, c'est Who Killed the Electric Car, des trucs comme ça, qui ont parlé de ça, que justement, ça aurait pu être la norme, mais ça ne l'est pas. Alors, ma réponse, ce serait, c'est sûrement Ford qui est lié à tout ça, avec, bon, la standardisation de tout ça en usine, avec...
Je vais donner la première bonne réponse pour ce vol-là. Ah, félicitations, tu peux continuer ton développement, ceci dit.
Et l'invention du moteur à combustion, j'imagine, à ce moment-là. Tu peux déjà faire le son.
Tu peux achever mes souffrances.
Hein. Mais je pense que, tu sais, il y en a aussi qui ont fait taire ceux qui avaient le brevet pour le moteur électrique ou des trucs comme ça. Il y a eu beaucoup de pression pour que l'industrie du pétrole connaissent un essor au lieu de l'industrie de l'électricité.
Ben, écoute, je pense qu'il y a sûrement eu du travail de lobby à l'époque, mais de ce que j'ai compris, le travail de lobby s'est beaucoup plus fait dans les années 90.
Okay.
En fait, Who Killed the Electric Car, si je ne m'abuse, ça traite bien plus de cette période-là,
okay.
De ce moment-là où on aurait pu avoir une charnière plus rapide vers l'électricité et où il y a beaucoup de grandes compagnies qui ont continué vers le moteur à essence, finalement. Ceci dit, dans les années 1880 jusqu'à début 1900, s'il y a eu du travail de lobby, ça n'a pas été indiqué, en tout cas dans les sources historiques, tant que ça. Tu l'as nommé constructeur automobile, effectivement. En 1913, le constructeur automobile Ford commence à intégrer la production à la chaîne, hein, donc standardisation, comme tu as nommé, ce qui va faire augmenter la productivité des véhicules pour en faire et qui va réduire drastiquement, évidemment, le coût de ces différents véhicules-là. L'invention, par contre, et là, c'est très intéressant, au tout début du 20e siècle, les ventes de voitures électriques atteignaient des sommets, comme je te le disais. C'était vraiment le véhicule qu'on achetait le plus. La raison était vraiment simple. La principale raison, les voitures à combustion devaient être démarrées avec une manivelle, hein, une crinque. Donc physiquement, il fallait tourner ça, ça pouvait être difficile déjà de le faire. Et aussi, les gens aristocrates de haute classe sociale ne voulaient pas se faire voir en train de crinquer une manivelle, ça n'avait pas de bon sens. Alors, l'invention du démarreur électrique, hein, pas juste un truc des clés électriques, là, un démarreur électrique dans le moteur, a vraiment fait en sorte que les véhicules à essence sont devenus populaires parce qu'on n'avait plus à crinquer son modèle à essence. À cause de Ford, les coûts de production étaient rendus plus bas et tout ça a fait en sorte que c'est le véhicule à essence qui a supplanté complètement la voiture électrique, beaucoup plus chère.
Fait que c'est le démarreur électrique qui aurait tué la voiture électrique.
Exactement ça. Parce que maintenant, on n'avait plus besoin de crinquer la maudite manivelle.
Oh wow.
C'est pas pire hein, quand même.
Merci Ford pour ce siècle de pétrole.
Exactement. Une belle centaine d'années d'essence là, pour le démarreur électrique. Alors on l'aura appris effectivement. Mais félicitations Francis, échoué le doctorat. Mais ceci dit, belle reprise, on est repris jusqu'à la maîtrise.
On s'est repris,
là. Je suis assez fier de toi, je vais te le dire. Alors, c'est ce qui m'a fait au podcast. Merci, mon cher Francis. Encore une fois, un honneur, hein, je te le dis toujours, de faire ce podcast avec toi. On se revoit pour un autre.
Certainement, je vais prendre mon char. Ciao, bye.
À bientôt, les amis.